Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Un débrief de haute volée, encore une fois, s'annonce ce soir avec, pour commenter l'actu, Claudia Cohen qui est avec nous. Salut Claudia.
Salut François.
Journaliste au Figaro, à tes côtés, Claudia, Jérôme Colombin ce soir. Salut Jérôme.
Salut François, bonsoir à tous.
Jérôme, auteur du podcast Monde Numérique, journaliste aussi, bien sûr. Monde Numérique à écouter, à regarder, à télécharger en fin de semaine.
À lire
aussi, voilà. Oui, c'est de l'audio, c'est de la vidéo, c'est de la lecture. C'est important.
Et à s'abonner, à se fidéliser.
C'est ça.
Merci.
Et Frédéric Simotel, bien sûr, vous l'avez entendu et reconnu. Salut Fred.
Salut François.
Journaliste à BFM Business. L'actualité ne s'arrête jamais, l'actualité tech ne s'arrête jamais, elle est encore bien dense. Ce soir, avec ce projet de loi donc sur la sécurité de l'Internet adopté, on va y revenir dans quelques instants. C'est le projet de loi pour sécuriser Internet, hein, exactement. On va évoquer aussi cette conférence de presse IA qui s'est déroulée ce matin à Paris avec Yann Lequin. Jérôme, tu y étais.
Oui.
Un journaliste de BFM Business aussi y était tout à l'heure. On y reviendra puisqu'on a réussi à capter l'attention de Yann Lequin pendant quelques instants. On vous diffusera un petit bout d'interview. On reviendra sur Sam Altman, voilà, qui est sans doute la personne de l'année 2024. Hein, enfin, je veux dire, moi, je l'imagine bien en couverture du Time en 2024.
Hein, c'est Sam mauvais signe à chaque fois la couverture du Time. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Il y en a beaucoup qui finissent quand même en prison. Il y a beaucoup.
Bon, alors j'ai rien dit, Sam, si tu nous écoutes. C'était une erreur de ma part. On parlera aussi d'Amazon qui ajoute de la pub sur Prime et vous verrez que c'est assez malin de la part d'Amazon. Hein. C'est pas la même stratégie que Netflix ou que Disney+. Bref, plein de choses, plein de bonnes choses dans l'actu. Mais pour débuter donc, et cette news est tombée il y a quelques minutes, hein, c'est ce fameux projet donc de loi pour sécuriser Internet. Ce fameux projet de loi SREN qui a été porté par le précédent ministre de la Tech, donc Jean-Noël Barrot, qui est alors intéressant à plusieurs égards parce qu'il est là pour sécuriser l'Internet et, on va dire, protéger un petit peu les internautes face aux réseaux sociaux, avec le cyberharcèlement, mais aussi les arnaques et cette fameuse, on va dire, vérification d'identité pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, pour qu'on puisse vérifier s'ils peuvent aller sur des sites pour adultes. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Fred, est-ce que...
Alors, c'est le projet de loi qui est adopté, hein. Il y a tout le projet.
Voilà, c'est pour ça que j'ai bien dit, c'est un projet de loi qui est adopté, hein, c'est pas encore définitif. Il a été d'ailleurs un peu lavé, hein, ce projet de loi, parce qu'il y avait, je crois, des
pas très conforme à la réglementation européenne.
Voilà, il n'était pas en conformité avec la réglementation européenne par rapport au DSA et au DMA, je crois. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Évidemment, cyberharcèlement, les arnaques, etc.
Oui, le filtre anti-arnaque, la lutte contre le cyberharcèlement et puis l'accès des mineurs, notamment aussi pour nous. Voilà, si je devais résumer un peu les trois. Après, il y a plein de choses, hein, l'interopérabilité du cloud pour permettre de basculer d'un cloud vers l'autre, l'histoire de tout ce qui est les jeux numériques aussi, donc la réglementation. Mais voilà, si on devait retenir un peu les trois grands points, c'est ça, c'est vraiment le filtre anti-arnaque, la lutte contre le cyberharcèlement et puis la vérification des ados pour qu'ils n'aient pas accès au site porno. Ce qui est toujours compliqué là, c'est, ben, Jérôme vient de le souligner, c'est déjà de se conformer à la réglementation européenne, première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même dans la technologie, donc est-ce que tout ce qui est possible sur un texte n'est pas forcément... limiter la vitesse sur une route, ça on sait faire, mais limiter la vitesse, limiter des choses sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois, certains des acteurs de cet écosystème ne sont pas en France, encore moins en Europe. Donc pour réguler tout ça, ça reste de la technologie avec beaucoup de choses virtuelles, dématérialisées, donc pour attraper tout ça. Mais quand même, voilà, il y a quelques règles qui sont établies. Et puis, pour ceux qui se font prendre, il y a quand même pas mal de d'éléments pour les condamner et puis pour au moins les contraindre à respecter des règles qui nous semblent tout à fait normales, hein, les pornos, le bannissement des cyberharceleurs, etc.
Avec toujours, donc, on va dire, l'une des... on va dire des conditions importantes de cette loi, c'est, tu le disais, comment vérifier l'identité en fait d'un mineur face à des sites pour adultes. Compliqué encore, parce que mine de rien, si on statue là-dessus dans ce projet de loi, alors qui n'est pas adopté, c'est un projet, comment vérifier, enfin techniquement après...
Là-dessus, c'est une des limites du texte, parce que ce que dit le projet de loi, c'est que ce pouvoir est confié à l'ARCOM, et donc c'est l'ARCOM qui doit trouver une solution de vérification de cet âge en ligne.
On vous ils ont pas la patate chaude, les amis.
Exactement. Et en fait, ça fait mais des années, peut-être 3-4 ans, qu'on essaye de trouver une solution. Il y a plusieurs acteurs, notamment la Poste, qui essayent de se positionner là-dessus en disant, de la même façon.
Des tiers de confiance, oui.
Voilà, des tiers de confiance, avec l'identité numérique, mais on n'a pas du tout la solution miracle pour le moment. Et un deuxième point aussi qui représente une énorme limite, quand même, c'est que pour, on le disait, s'adapter au droit européen, en fait, l'ARCOM aura un pouvoir de blocage de certains de sites pornographiques qui ne respecteraient pas la vérification d'âge, mais seulement les sites qui sont en fait soit français, soit en dehors de l'Union européenne. Et en fait, la plupart des sites un peu mainstream pornographiques, c'est des sites dont les structures sont situées en Europe. Donc, ça veut dire que de fait,
ils passent entre les mailles du filet.
C'est compliqué. Il y a pas mal de limites encore. Et après, il y a quand même un aspect très déceptif pour le gouvernement qui avait voulu de cette loi. Il y avait cette idée qu'on voulait mettre fin à ce que beaucoup appelaient l'anonymat en ligne. À mon sens, qui de toute façon n'existe pas. Je pense qu'on peut parler de mettre fin au pseudonymat en ligne plutôt. Et donc, il y a cette idée que d'ici 2027, ceux qui le souhaitent pourront créer une identité numérique pour se connecter aux réseaux sociaux, alors que le gouvernement voulait que ce soit obligatoire. En fait, ça ne le sera pas. Ce sera à votre guise. Ouais. Donc, il y a quand même
et
pas
si
mal
c'est pas
de...
Et si ce n'est pas obligatoire, évidemment, ça passe complètement, ouais. On va dire, à côté de on va dire de l'essence même de ce pourquoi ce texte a été écrit.
Non, oui, à moins qu'on découvre soudainement l'intérêt d'avoir une identité numérique et de pouvoir véritablement s'authentifier, prouver qu'on est bien soi-même.
Il faudrait que cette identité numérique, au lieu de sanctionner, apporte vraiment un confort en fait pour les usagers.
Que ce soit un plus au lieu d'être un...
Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps là en train de dire, c'est pour punir, pour interdire. Il faudrait que cette identité numérique apporte vraiment quelque chose, qu'elle nous simplifie la vie quand on est sur Internet.
Une coche bleue, par exemple.
Sur Twitter,
par exemple.
Il paraît que ça revient, tiens. Je sais pas si vous avez vu cette actu.
Ils la donnent aux gros influenceurs.
Aux gros influenceurs, ils ne payent plus, ils retrouvent leur coche bleue.
Mais ils disent à partir de 2500 followers, mais 2500 followers qui sont certifiés. Donc en fait, je pense qu'il y a d'autres gens que des influenceurs, peut-être des journalistes aussi, qui pourront retrouver leur coche bleue.
Oui, influenceur, c'était pas le terme, pardon.
Non, après, est-ce qu'on en veut vraiment? Je sais pas, c'est quand même moins le Graal qu'avant la coche bleue.
Bon, cette loi SREN, on aura l'occasion d'en reparler, Fred.
Oui. Deux choses pour rappeler. Il y a toujours ce rôle un peu des gatekeepers, enfin ceux qui permettent d'accès à Internet, c'est qui est pas très clair non plus. Le rôle des opérateurs télécoms, le rôle des Google, Microsoft, enfin voilà, ceux qui nous donnent l'accès à Internet, qui est pas très clair. Et puis quand même, moi, ce qui m'étonne, mais là, il faudrait rentrer dans un débat plus politique, c'est que pour moi, je me dis, c'est qu'il y a quand même des choses assez de bon sens dans tout ça, et ça passe quand même 134 voix contre 75. Quand même 75 députés qui disent non, on n'en veut pas. Alors quand on regarde l'Assemblée, c'est plutôt extrême droite, extrême gauche.
On voit bien que ça a quand même donné lieu à des débats. Enfin, chacun a pu bien camper sur ses positions habituelles, etc. Faire le procès de ceci, de la censure, de cela, etc. Et il y avait finalement, il y a un éditorial de Tech & Co et de la newsletter de Tech & Co de Thomas Leroy. Voilà, vous avez fait de la pub pour Monde Numérique. Je vais faire de la pub pour Tech & Co. Et il dit à juste titre que c'est bien gentil de cette loi qui est là pour sécuriser, mais elle s'attaque à des points qui seront extrêmement difficiles à faire. C'est ce qu'on explique. La question du contrôle de l'âge des mineurs, mais même le bannissement des réseaux sociaux. Comment on fait pour bannir des réseaux sociaux? Il n'y a rien de plus facile que se réinscrire sous une autre identité. Et en fait, c'est ça tout le truc, quoi. C'est plein de bonnes intentions, mais
il faudrait un peu.
C'est moins applicable.
Après, est-ce que ça permet pas déjà de mettre des contraintes à 70% des gens qui, dès qu'ils ont une alerte, ils... Oula, je vais arrêter de...
Puis il y a des amendes aussi qui sont prévues dans cette loi.
Mais c'est là, je pense, qu'il y a eu un peu le lever des boucliers sur le côté liberté individuelle bafouée, que je pense que reprochent certains extrêmes du spectre politique. Il y a cette notion d'amende sur des propos qui sont jugés... Par exemple, il y a la notion d'humiliant.
Le délit d'outrage en ligne.
Il y a des notions assez vagues comme humiliant. Bonne chance à celui qui devra qualifier concrètement ce qu'est un contenu humiliant. À part des photos, évidemment, mais est-ce que ça va être dans les textes aussi? Enfin, il y a encore quelques inconnus, mais
juridiquement, ça tient pas la route, visiblement.
Oui.
Ça, de toute façon.
Mais c'est une bonne chose quand même que on essaye de retrouver
si ça
un peu de souveraineté aussi.
À passer au tamis, tu vois, et à enlever au moins, je sais pas, même 60% de tout ce qui se tout ce qui se déroule mal sur Internet, voilà, ce serait déjà ça, de se concentrer sur...
Bah, en gros, Fred, si je commence à te cyberharceler ou t'arnaquer sur Internet et qu'on arrive à m'identifier, eh bien, je suis passible d'une amende de 300 euros. C'est ce qu'on appelle une amende forfaitaire délictuelle que je devrais
déjà
payer.
Oui.
Je crois
le
pas.
Cyberharcèlement ?
Ah oui ? Ça existe, c'est déjà, c'est déjà le cas.
C'est le cyberharcèlement en meute, peut-être, en groupe.
Parce que là, oui, visiblement, c'est pas que cyberharcèlement, hein, c'est aussi des arnaques sur Internet, les propos haineux, etc., etc. Donc peut-être que ça a été élargi à d'autres choses à creuser. Hein. Tout ça vient de tomber. Alors comme toujours avec ces projets de loi, c'est assez complexe à comprendre. Il faudra peut-être un peu digérer tout ça et y revenir.
Et voir les premiers cas.
Non, puis on a tous connu, enfin pour certains les débuts d'Internet, mais on voit que voilà quand il y a une autre techno, on a eu les cookies qui sont arrivés, puis après les cookies, on a eu d'autres technos. Enfin, on sait que ils sauront trouver la technologie pour contourner un peu tout ça et pour trouver. Mais bon, voilà, faut saluer quand même qu'on avance au moins sur ces sujets-là.
Très bien, on passe à autre chose avec une grosse actu aussi. Se tenait aujourd'hui une conférence de presse dédiée à l'IA, organisée par Meta avec du beau monde. Hein. Jérôme, tu y étais ?
Oui, alors, bonne partie de la journée.
Alors, on a la chance parce que, évidemment, tu y étais pour Monde Numérique. J'ai déjà vu sur tes réseaux sociaux un petit bout d'une interview d'un certain Yael Nequin, qui est la star de l'intelligence artificielle. Quel était l'intérêt de cette conf, en fait,
alors,
de la part de Meta?
Alors, c'était un peu... tu sais que Meta n'est pas celui qui est le plus dans la lumière hein, avec l'IA. Oui. C'est pas OpenAI, c'est pas Anthropique.
C'est injuste parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur l'IA.
Ah oui, absolument. Et ça tient aussi peut-être au fait qu'ils n'ont pas vraiment de produits, ils n'ont pas de chatbot. Mais ils ont un modèle depuis un certain temps qui s'appelle Llama et qui en plus est en open source, donc c'est pas la même démarche, etc. Et là, l'idée c'était de faire un peu étalage de tout leur savoir et de montrer la direction dans laquelle ils allaient. Et c'était quand même super intéressant parce que Yael Nequin, c'est quand même quelqu'un qui... Ça plane assez haut, quoi.
Ouais.
Et c'est vraiment incroyable. Et avec, en plus, un talent pour expliquer les choses avec des images très simples.
Il y a eu des annonces, etc., où c'était simplement plutôt pédagogique.
Alors, grosso modo, l'annonce, c'est que Llama version 3 va arriver, sans doute le mois prochain. Et ce sera donc la nouvelle itération. Et on va vers... ce qu'ils appellent des modèles qui seront capables, et des IA qui seront capables de raisonner. Donc, plus seulement de générer des bouts de texte, d'analyser des textes, mais de raisonner. Et c'est là où, alors je peux t'en parler pendant une heure, mais ou sinon, je vous invite à écouter Monde Numérique samedi prochain, on y reviendra. Parce que c'est toute la théorie de Yael Nequin, c'est lui qui a insufflé tout ça. C'est son idée d'IA qui, véritablement, quand il y a un problème à résoudre, elle va le considérer dans sa globalité. Et elle va plus du tout travailler uniquement sur du texte, à essayer de trouver par statistiques les mots-clés, les mots qui correspondent le mieux, etc. Là, l'idée, c'est d'essayer d'embrasser le monde comme on le fait nous, quoi, avec les yeux, la perception des sens, etc.
Mais Jérôme, tout ça c'est bien beau, donc Llama 3 qui va arriver bientôt.
Ouais, et GPT-5 parallèlement, OpenAI qui va faire à peu près, qui promet la même chose.
Ouais. Voilà, sauf que GPT-5, on sait comment ça marche. On va sur le site de ChatGPT et on peut en fait dialoguer avec cette intelligence artificielle générative. Meta, on ne sait pas. En fait, on parle de toutes ces itérations de Llama, mais est-ce que toi et moi pouvons l'utiliser au quotidien?
Alors, ça va arriver dans WhatsApp. Hein, il va y avoir un chatbot qui est en train d'être déployé dans WhatsApp. Et puis eux, ils ont des devices aussi, contrairement à OpenAI, ils ont les lunettes. Donc là, la journée, enfin maintenant, Yael Nequin se promène toujours avec ses lunettes
Meta,
Ray-Ban, qui se met à parler pendant les interviews, d'ailleurs, sympa.
C'est que c'est pas au point, voilà. Alors, visiblement.
Et puis, bien sûr, il y a le Quest 3, et le Metaverse, qui n'est pas du tout abandonné, hein, et l'IA va rentrer là-dedans.
Il prononce encore le mot métavers.
Ah ouais, non mais il le prononce sans état d'âme, il n'y a pas de problème, et c'est super intéressant.
Ton micro Fred.
Le métavers c'est un peu, c'est la lame de fond, hein. c'est quelque chose qui est plus sur long terme. Quand Mark Zuckerberg en a parlé, évidemment est arrivé le phénomène ChatGPT, donc du coup, et puis en plus ça a eu du mal à prendre, enfin voilà, il y a tout un tas de raisons, donc ça a été un peu sous les radars, mais ça reste, je pense, leur gros développement. Et puis, faut rappeler aussi que... Meta et leur Llama 3 aussi sera en open source. Hein,
ce qui est le cas, donc, en toute logique, oui, il devrait l'être. Enfin, on se rappelle tous de GPT 3.5 ouais. qui était aussi en open source.
Mais eux, ils le revendiquent beaucoup plus que OpenAI et même une version de Mistral aussi qui a peut-être non open source.
C'est vrai que je te rejoins assez. Il y a quand même cette idée que les produits, l'accessibilité est quand même moins grand public. Tu citais, Jérôme, les lunettes, le casque, c'est des choses que soit des professionnels vont utiliser, soit des gens qui sont vraiment.
Et puis il faut acheter un device pour pouvoir l'utiliser.
Il faut acheter le device.
Alors que ChatGPT, c'est gratuit pour tout le monde.
Et être dans l'écosystème, voilà. C'était forcément c'est ça. Les lunettes, le machin.
Et franchement, c'est pas grave, les mecs. Attendez. C'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est pour. Ouais, j'ai eu ma piqûre là, je pense que... Il va falloir que je redécompresse. Mais c'est pour dans 10 ans. Mais seulement l'approche n'est pas la même. Alors ce que dit Yann Lequin, et là moi je suis totalement incapable de savoir s'il a raison ou pas, mais en gros il dit que les LLM, donc ChatGPT, je lui ai demandé s'ils allaient dans le mur, ils disent non, ça va pas dans le mur, etc. Mais sur l'autoroute, ils sont en train de prendre une bretelle. C'est-à-dire que. Ils ne pourront pas aller vers une vraie IA aussi intelligente que l'être humain. Pourquoi ? Parce que les LLM ne traitent que du texte.
Donc c'est l'intelligence artificielle générale qu'on évoque souvent, qui serait un peu le Graal.
Et c'est comment on l'a fait, cette intelligence artificielle générale ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un enfant de 4 ans est plus intelligent que le plus puissant des LLM et il apprend en quelques heures
Oui, des choses que l'IA n'arrive pas à apprendre aujourd'hui.
Mais il y a quand même une question, si jamais on parlait du message que donne Meta au grand public, mais quel est le message aussi que donne Meta aux chercheurs. Moi, je lisais un article très intéressant dans la presse américaine qui expliquait que Mark Zuckerberg appelait lui-même certaines personnes chez Google DeepMind notamment pour essayer de les débaucher. Donc, il y a aussi la façon dont on se market auprès du grand public, mais aussi des professionnels qui ont les capacités de développer les meilleurs modèles dans le futur. Donc, ce sera quand même assez intéressant à voir.
Ouais, et puis c'est 150 chercheurs à Paris sur l'abord faire, c'est 400 dans le monde et 150 à Paris. Oui. Donc c'est pas 15 à Paris et 400 dans le monde.
C'est de la recherche ouverte. Oui, justement. Open source.
Et d'ailleurs, Yann Lequin conserve une chaire à l'université de Nouvelle d'enseignement.
Oui, bien sûr.
La façon d'enseigner et puis de repérer aussi les petits jeunes qui
montent. Encore un mot si je peux. Ils promettent quand même un produit. Alors, c'est pas encore un produit commercial. Yann Lequin, il est pas dans la partie product, il est dans la partie recherche. Mais son objectif, c'est d'arriver à nous fabriquer un petit agent intelligent qui saura tout de nous. Il l'a déjà répété plein de fois. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on peut pas demander à une IA de nous réserver, de nous organiser un voyage de New York à Paris. Parce qu'il faut savoir qu'il faut prendre d'abord le taxi, ensuite prendre l'avion, quelle est la distance, quel est le prix, etc. Parce que l'IA générative qui fonctionne qu'avec du texte, elle ne peut pas brasser toutes ces données.
Oui, bien sûr.
Et lui, l'IA qu'il envisage, c'est l'IA qui ira à l'essentiel, qui sera guidée par la tâche, c'est-à-dire par l'objectif qu'il doit remplir, en oubliant tous les problèmes annexes, c'est-à-dire qu'elle s'en fout de savoir combien d'énergie vous avez dépensé pour vous lever vos chaises et arriver jusqu'à votre taxi, ça n'a pas d'importance. Alors que le LLM, lui, il va essayer de calculer tout ça. Donc c'est ça un peu la
différence. Et là-dessus, l'assistant, tu peux le mettre dans Messenger, tu peux le mettre dans le Facebook, absolument. Tu le mets dans le WhatsApp. Et là, presque tout le monde a déjà ça sur son téléphone.
Imaginez un chatbot intelligent comme ça dans WhatsApp qui te prépare ton voyage et qui te réserve ton hôtel, ton avion, ton taxi, etc.
Mais ça fait 10 ans qu'on en parle.
Voilà.
Mais
une espèce de concierge d'IA.
ChatGPT n'en est pas loin. Tu lui dis, je pars 10 jours aux États-Unis, donne-moi. Alors il te fait pas les réservations.
Ouais, mais il fait pas les réservations.
Atterrir au milieu de l'océan, il dit n'importe quoi.
Mais là où t'as raison, c'est qu'il va te faire un super programme, mais il va pas te commander tes billets d'avion, il va pas réserver tes hôtels.
Moi, j'avais fait ça pour Londres, c'était impeccable.
Non, mais c'est clair.
Tu disais l'âge des enfants, il t'a tout fait le truc de façon.
On parle de Yann Lequin. Il se trouve que nous avions aussi, durant cette conférence, mettait un journaliste de BFM Business qui s'appelle Zidane Azouzi. Il a pu rencontrer justement Yann Lequin et autre sujet. Un peu, on va dire, chaud en ce moment, c'est la régulation de l'intelligence artificielle. Et Zidane donc a posé cette question de la régulation à Yann Lequin. On écoute sa réponse tout de suite.
La grosse question qui, à mon avis, mérite un débat important, c'est est-ce qu'il faut réglementer la recherche et le développement ? Mon opinion personnelle, qui n'est pas l'opinion nécessairement officielle de Meta, c'est que l'Europe est probablement allée un petit peu trop loin, un peu trop vite, dans la réglementation de la recherche et du développement, en disant Il y a des modèles d'IA de très grande taille qui seront peut-être intrinsèquement dangereuses. Ils ont été convaincus par une personne ou une autre qu'il y a un risque potentiel, existentiel, etc. Je n'y crois pas du tout, moi, personnellement. Et je pense que ces réglementations, en fait, vont chasser certaines entreprises de l'Europe. Quoi.
Cette réglementation vont chasser certaines entreprises de l'Europe. C'est pas super optimiste, hein, tout ça. Non.
Oui, mais il force un peu le trait. Peut-être.
Il force un peu le trait.
Ouais, je pense que.
Tous les acteurs de l'IA, c'est ce qu'ils disent. Hein. Enfin, les Mistral. Les...
Après, oui. Moi, je pense que la bonne question, c'est quand même celle du véhicule qui est utilisé, parce que si moi on me demande mon avis, oui, je pense qu'il faut réguler l'IA, mais est-ce qu'il faut le faire via une loi? Est-ce qu'on passe pas, on voit aux États-Unis qu'on passe plutôt par des executive orders, c'est-à-dire des espèces de décrets qui sont adaptables dans le temps. Là, on peut quand même se poser aussi au niveau de l'IA Act la question d'une potentielle obsolescence en 2025, au moment où le texte va être actif. Donc moi, pour moi, ce qui me chagrine un peu plus, c'est le véhicule, et aussi ce qu'il faut dire sur l'IA Act, c'est que ça confère énormément de pouvoir à la Cour européenne de justice qui n'a pas de scientifiques, parce que ces gens-là n'ont pas à être des scientifiques. Donc ça pose quand même les questions de est-ce qu'on a pris les bons outils.
Alors, juste, excusez-moi, j'ai un autre petit son à vous diffuser. Parce que Yann Lequin, évidemment, c'est la star de l'IA. Autre star de l'IA que l'on connaît un peu moins, il s'agit de Jonathan Ross, qui est en fait le fondateur de Grok. Vous savez, cette puissance de calcul qui est assez révolutionnaire et qui permet d'avoir des réponses en quelques nanosecondes, alors que c'est vrai que sur ChatGPT, par exemple, il faut attendre, par exemple, 2-3 secondes.
C'est des processeurs vraiment orientés IA.
C'est ce qu'on appelle les LPU, ouais. C'est ça. Et il se trouve que Jonathan Ross est venu sur le plateau de Tech & Co. On va vous diffuser l'interview demain, une interview de 40 minutes passionnante où on évoque énormément de sujets sur l'intelligence artificielle. Comme elle a été préenregistrée, on va vous diffuser un petit bout justement sur la régulation de l'IA. Et lui, c'est intéressant, il dit qu'il faut réguler l'IA. On l'écoute tout de suite.
Ce pourquoi je milite, c'est que je pense qu'il faut une législation sur l'IA. C'est vrai pour tout ce qui est aussi important et puissant que cela. Mais ce sur quoi il faut se concentrer le plus, c'est s'assurer que l'on préserve des élections libres et équitables. La raison en est que si l'on fait cela, là, on pourra régler tous les autres problèmes en temps et en heure. Aux États-Unis, on ne permet pas d'avoir des financements extérieurs dans les élections, donc il ne faut pas avoir de calcul étranger aussi dans les élections. Donc chaque pays doit pouvoir prendre sa propre décision quant à ses dirigeants et leur propre processus. Il ne faut pas s'ingérer là-dedans. Donc, ce qui est à notre faveur, c'est une législation et des efforts visant à préserver le caractère sacré des élections. Si l'on fait cela, eh bien, on a suffisamment de temps pour savoir ce que l'on pourra faire ensuite.
Ce que dit Jonathan Ross en résumé là, c'est que en fait il faut une souveraineté de l'IA finalement, notamment dans des moments on va dire critiques comme par exemple les élections, des élections on va dire présidentielles, etc.
Oui, Jérôme. Mais juste sur l'IA, il y a quand même un distinguo à rappeler quand on parle de réglementation. Réguler l'IA, ça veut rien dire. En fait, il y a deux choses. Il y a réguler les produits de l'IA et réguler la recherche. Et ce contre quoi Yann Lequin, tout à l'heure, s'insurgeait, c'était les tentatives de régulation de la recherche. Et ça fait 3 ans que tous les chercheurs le disent. C'est idiot de réguler la recherche. On n'a jamais régulé la recherche, mais même pour le clonage humain, etc. C'est après, on laisse la recherche et au bout d'un monde dit attention, il y a ça qui peut arriver sur le marché.
Les OGM, par exemple.
Voilà, on dit il y a ça qui peut arriver sur le marché, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on n'autorise pas? Et là, il faut une régulation, il faut une réglementation. Mais il ne faut pas tout mélanger, en fait.
Et c'est super intéressant, la façon des médicaments aussi, finalement. Il y a de la recherche, et une fois qu'on veut vraiment le mettre sur le marché, là, on passe par des process. Contrôle, voilà, c'est une bonne vision.
Non, il y a deux autres soucis majeurs, c'est qu'en Europe, on est une Europe à 27, et on n'a pas tous les mêmes intérêts par rapport à tous ces enjeux autour de l'IA, parce que certains vont plus vite que d'autres, certains, les systèmes politiques, etc., l'écosystème, la culture, enfin, est différente. Et puis, on a un autre point, mais ça, tu l'as soulevé, c'est qu'il n'y a pas de scientifiques, là-dedans. Et moi, je discutais discutais l'autre jour avec Alexis Grenbaum, qui est un grand scientifique, enfin qui est en France au CE à Saclay. Et lui, c'est ce qu'il n'arrête pas de dire. Il dit, moi, je suis pas contre l'IAC, mais mettez les scientifiques à l'intérieur de ces comités-là pour que eux-mêmes participent à cette réflexion. Et là, ce que l'on voit, c'est dès qu'on voit ces scientifiques que tu parles de recherche et tout ça, de Yann Lequin, tout ça, ils sont tous remontés contre contre ça. Il dit, on manque de vraiment de connaissances autour de ça, et on est encore une fois dans des, on est dans les textes, alors que bon, c'est une, on n'arrête pas de le dire ici, c'est une révolution beaucoup plus profonde.
Mais tu as raison, puisque il y en a beaucoup qui parlent de réguler l'IA, et comme par hasard, ce sont les plus gros, parce que en fait, c'est pour essayer d'éviter qu'il y ait de nouveaux entrants qui arrivent sur le marché.
C'est ça.
Hein.
C'est, voilà, c'est ça.
C'est ça. C'était le fameux, je sais pas comment le truc de Elon Musk là, le. Comment ça s'appelle ? Enfin, la lettre qu'ils avaient signée.
Manifeste.
Moratoire, non ? Heureusement qu'il y en a une qui suit.
Allez, avec l'aide contre triple. Voilà.